De façon assez amusante, je me suis aperçu, et je me suis aperçu seulement aujourd'hui, que j'avais modifié le titre de son livre, parce que le titre de la conférence qui est sur le programme, c'est « Le médecin, le malade et sa maladie », alors que le livre de Balint, c'est « Le médecin, son malade et la maladie ». Et que finalement, ça change beaucoup les choses. Ça change même totalement la relation. Et je crois que dans cette relation, on pourrait dire qu'on est dans une pièce de théâtre. Les rôles sont précis. Le patient doit faire le patient. Le médecin doit faire le médecin. Sauf que, et c'est à garder en mémoire, le médecin peut un jour ou l'autre devenir malade. Et ça, je crois que c'est important parce que ça va nous renvoyer dès le départ à notre fragilité potentielle. Et donc, dans cette relation, il ne faut pas oublier ce changement possible de rôle. Alors, le titre de Balint, il positionne le malade finalement dans une espèce de dépendance qui va piloter l'ambiance de la consultation et du soin. Et ça, évidemment, lorsque, dès l'entrée en matière de la consultation ou du soin, je place le patient dans une position de dépendance vis-à-vis de moi, je me place, par définition, dans un état de supériorité. Et ce rôle du médecin, sur lequel on s'étendra un petit peu, c'est celui que me demande la société. Je suis là pour protéger. Protéger comme si j'étais capable d'être supérieur à la maladie, donc d'avoir une puissance qui dépasse la maladie. Et en même temps, ce rôle, lorsque je reste dans mon rôle, eh bien, je suis protégé parce que le patient sait à qui il s'adresse et il attend de moi quelque chose de précis, de clair. Et il s'étonne, voire parfois il s'offusque du fait que le médecin ne soit pas capable de dire les choses de façon claire, précise, avec un traitement immédiat, quelque chose de sécurisé. Bien souvent, les patients demandent un traitement qui soit sûr, comme si nous, on pouvait être sûr de quelque chose en médecine. Et nous, ça nous intéresse d'être sûr, ça nous protège. Donc il y a une espèce de relation bizarre sur laquelle on reviendra. Mais il est clair que quand dans une relation médecin-malade, on déplace l'icône médicale et qu'on lui donne une autre face, ça perturbe de façon absolument extraordinaire la relation parce que le patient qui s'adresse à un technicien, vraiment dans tout ce qu'il y a de plus horrible du technicien, ces devises de combien que vous allez me mettre, eh bien, il est perturbé, déstabilisé, et ça va permettre éventuellement de faire passer autre chose. Alors, la position du malade, c'est donc une position, j'ai dit de soumission, mais il y a toute l'attente, l'angoisse, le doute, et il est aussi, lui, dans un rôle. Il y a ce qu'on appelait à un moment les bons patients. Ça, c'est un bon patient. C'est le patient qui ne va pas me poser de problème, pas poser de questions, qui va obéir, qui va se tenir bien, vous voyez, le doux, l'agneau qui s'amène pour se faire abattre. Et puis, à côté de ça, il y a de temps en temps le mauvais patient. Le mauvais patient, en général, il est allé sur Internet, il arrive avec la photo de la prothèse qu'il a décidé que vous alliez lui mettre, il vous explique comment vous devriez faire, et d'ailleurs, ce n'est pas normal, docteur, que, etc. Et en fait, c'est très bizarre parce qu'on voit des patients qui passent d'un statut à l'autre, qui cherchent à la fois à maîtriser tout et en même temps à être dépossédés de tout. Je vous pose mon corps, je repasserai quand il sera réparé. Et ça, c'est assez fréquent comme mode d'expression. Ce n'est pas forcément dit comme ça, mais quasiment. Et ça, c'est aussi un élément qu'on prendra ensuite en compte. La maladie, là-dedans, devient le catalyseur de la réaction. C'est la raison d'être de cette relation médecin-malade. Sans maladie, on ne voit pas bien ce qu'on irait faire chez le médecin. Et donc, c'est cette relation qui va être cause de la relation et qui va être en même temps thérapeutique. On sait très bien que la douceur de voix ou au contraire l'agressivité vont changer la relation et vont changer l'effet thérapeutique. Mais il va falloir adapter cet effet de voix, par exemple, à la réaction du patient. Et donc, ça va être un échange. Cette relation, lorsqu'elle devient humaine, elle a un coût. Elle a un coût pour le malade, une espèce d'énergie, coût pour le malade et pour le médecin. Et on peut choisir de la refuser. Si je fais ma conférence tranquillement en vous tournant le dos et en regardant la radio qui est affichée derrière moi, je ne vais pas être embêté par vos réactions. Je peux être bon ou mauvais, on s'en fout, mais finalement, je ne vous connais plus. Eh bien, le patient ou le médecin peut avoir cette même relation, d'une relation purement technicienne, on refuse le contact, ou au contraire, on va s'approcher. Et ce coût, il est intéressant parce qu'il est risqué, c'est en fait un investissement. C'est un investissement sur la possibilité d'hommes et de femmes à grandir. Si la relation est réussie, elle fait grandir et le patient et le médecin. Mais c'est un risque. C'est un risque que notre médecine a tendance à vouloir éliminer par de la technicité. Moi, je veux dire que de temps en temps, j'ai quelques très belles lettres de plaintes de patients qui écrivent plutôt à la direction qu'à moi directement, d'ailleurs, pour expliquer que je suis allé me mêler de quelque chose qui ne me regardait pas. Ben oui, mais évidemment, moi, je ne peux pas traiter seulement que deux vertèbres. J'ai du mal à traiter que deux vertèbres. Alors, je vais essayer de donner quelques éclairages sur ces relations, et puis après, on aura le temps de discuter, de batailler. Je reviens sur la position du médecin. C'est donc un homme de référence. Et tout à l'heure, M. Caillé disait les guidelines, les evidence-based medicine, enfin, c'est des conneries. C'est des conneries. Il faut être clair. Rien qu'à voir la façon dont on peut biaiser une étude sans aucun problème, parfois même de bonne foi, mais quand on interroge un patient en lui disant « N'est-ce pas que vous allez mieux ?» il coche la case « Je vais mieux ». Quand même, c'est pas très compliqué à obtenir. Donc, on sait très bien que tout ceci évalue des choses, mais ne chiffre pas. C'est une approche, ça n'est absolument pas une certitude. Et pourtant, on cherche à nous donner un rôle de certitude. D'ailleurs, docteur, c'est incroyable, les docteurs sont nuls, ils ne savent pas ce que j'ai. Mais ils ne savent pas ce que j'ai. Oui, bien sûr, on ne sait pas ce que vous avez. Excusez-nous de ne pas tout savoir. Mais comment, à notre époque, on n'est pas capable de tout savoir de moi, comme si l'homme serait un jour capable de tout savoir de l'homme. Ce qui est une absurdité fondamentale. Il est clair, et j'espère bien, qu'on ne saura jamais tout de l'homme. Ce serait une catastrophe. Alors, cette protection, elle assure aussi, donc la protection du patient, mais la protection du médecin. Je suis très frappé par l'utilisation des gants. Quand j'étais interne, pour installer un malade sur la table, on le prenait avec nos mains. Pas très compliqué. Puis on a vu apparaître les gants partout. Et maintenant, on n'oserait plus toucher un malade sans gants. Donc, quand je passerai vous serrer la main tout à l'heure, je mettrai des gants. Vous voyez la qualité du contact qu'on peut avoir. La grippe nous a bien fait marrer quand même. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez étonnant de vouloir à toute fin maintenir cette distance protectrice pour le médecin. Nous nous protégeons du malade qui pourrait nous agresser. Alors il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est la chirurgie robotisée. Je me demande si en fait le bénéfice essentiel, plutôt que nous plongions dans le malade, toutes choses ayant leurs limites quand même, mais il y a une certaine pénétration, évidemment, il y a une effraction de la peau par le chirurgien. Eh bien, cette chirurgie robotisée nous permet de regarder un écran dans une autre pièce et de bricoler notre malade sans plus avoir cette agression, parce qu'il s'agit d'une agression du malade vers nous, quand on incise, quand ça saigne, quand on ouvre un thorax. Je reste encore extrêmement sensible à l'ouverture du thorax. Je pense que c'est la seule chirurgie où j'ai quand même un frémissement quand on prend une côte et qu'on essaye de redonner la vie. Genèse 2, pour ceux qui n'auraient pas la référence exacte. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui est une agression pour celui qui le fait. Et on robotise, on s'éloigne du problème. Protection également par les comités décisionnels. L'autre jour, j'ai une patiente qui m'a dit « Mais c'est qui le comité ?»« C'est plus monsieur machin, c'est plus le docteur truc. » C'est une réunion et le patient reçoit un courrier lui disant que, à la suite de la réunion du comité sein, du comité utérus, du comité poumon, il a été décidé que. Mais finalement, le mec qui est en face, qui serait capable de lui dire clairement les choses, taillé, c'est pas moi. Alors c'est très bien d'un certain côté technique, c'est clair, parce que je ne sais pas tout. Et que, évidemment, si j'ai le radiothérapeute, le machin qui complète ma connaissance, c'est très efficace pour le patient, c'est efficace. Mais est-ce que c'est bon? Ça reste à discuter et ce n'est pas si simple que ça. Et la réflexion de cette patiente m'a un peu ouvert les yeux sur cette crainte d'une distanciation. Et puis, il y a une protection légaliste. La loi est assez cocasse quand même, puisqu'elle nous demande de rassurer le patient en lui expliquant toutes les complications, y compris exceptionnelles. Vous allez acheter une bagnole et vous demandez au gars si vous pouvez avoir un accident. Vous avez déjà fait ça, vous ? Moi, pas. Et pourtant, c'est ça qu'on nous demande. Docteur, êtes-vous sûr que votre voiture, elle ne peut pas avoir d'accident ? Moi, je leur dis, vous savez, je peux effectivement piquer un coup de folie. Bon. D'aucuns dans l'assistance pensent que c'est possible, effectivement. Mais je crois que c'est ça. Notre protection légaliste nous impose de tout dire de choses qui sont inaudibles. C'est inacceptable. On rentre à l'hôpital, c'est pas pour mourir. Mais tout le monde sait qu'on peut y mourir, parfois même en bonne santé. Et j'ai eu un problème infectieux en ce moment, d'un patient cancéreux, radiothérapé, sous multichimio. Ça s'infecte, et il me dit, mais c'est une infection nosocomiale, ça. Et on sent le machin qui sort. Alors, pauvre homme, je veux dire que, bon, il est dans une telle souffrance que j'entends sa demande, j'entends sa complainte, mais nous, on prend ça, on le prend en pleine tête. Et il faudrait que nos amis légistes s'en souviennent le jour où ils seront opérés, où ils chercheront désespérément un médecin ou un chirurgien pour les prendre en charge. Toute cette protection, finalement, nous protège de notre fragilité technique et émotionnelle. Cette histoire de la distance est toujours quelque chose de très compliqué pour moi, mais c'est vrai que plus je regarde la radio et moins je regarde la tête du patient, moins j'ai mal et moins je souffre. Et ça, ça peut être une question importante à avoir en tête. Alors, la position du patient, il est quand même, c'est vrai, certains d'entre nous ont eu à devenir patients, et on sait tous que c'est une position très, très particulière de séparation. Déjà, dans la vie quotidienne, on est un peu séparé de tout. On est séparé du grand tout, on est séparé de la nature, on est séparé des autres, on vit dans un monde où il ne fait pas bon se toucher, où pour éviter le bruit des autres, on se met un Walkman, enfin non, un MP3, excusez-moi, j'ai un peu vieilli. Voilà, il y a une espèce de tendance à se couper. Mais là, je vais être découpé en rondelles, déjà, par un scanner, une IRM, je vais être découpé, ouais, je crois que c'est le terme. Et puis, je vais être dépossédé de mon image. L'autre jour, j'ai eu un patient qui m'a dit « Mais je ne suis que ça. » Pas facile, ça. Hein. Effectivement, il avait une scoliose telle qu'on se disait « Ça ne va pas tenir. » Mais je ne suis que ça. Et c'est un coup terrible. Et effectivement, les examens, en particulier radiologiques, parce que les biologiques, bon, ça ne parle pas. Mais on voit sa maladie. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement particulier au moment de la naissance de la radiologie. Alors, je suis gêné de parler devant M. Caillé de radiologie et de l'histoire de la radiologie, mais enfin bon, eh bien, la vision de son squelette sur une plaque faisait recette. On se faisait radiographier et on se mettait en valeur. Regardez, j'ai des os, c'est tout. Et ça met une extériorisation de la maladie par rapport au patient. Mais maintenant, avec des choses aussi performantes que les IRM ou qu'un PET scan, on voit sa métastase. Vous vous rendez compte ? Pour le patient, il se retrouve réduit à ça. Et ça, c'est extrêmement difficile pour lui. Il est dépossédé de son pouvoir. Je ne sais pas combien de temps on accepte d'attendre chez un coiffeur, chez un avocat. Enfin, en général, on supporte mal l'attente. Mais chez le médecin, ben, c'est normal. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Par chance, nos métiers nous permettent de ne pas trop attendre chez les collègues. Mais j'ai vraiment du mal avec cette notion. Je suis gêné de faire attendre parce que je trouve qu'il y a une espèce de mépris du corps médical. Alors, c'est vrai que les situations sont compliquées. Tout est excusable ou explicable. Mais c'est inexcusable, c'est pas acceptable. Et pourtant, le patient accepte de se laisser déposséder de son temps déjà, de son pouvoir, de son temps, de son image. Il perd la maîtrise sur sa vie, lui qui a été habitué à tout maîtriser, et il devient totalement dépendant. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant sur la participation au traitement. Bien souvent, quand on prend le temps, et c'est vrai que ça demande du temps, et qu'on interroge les patients, on dit, vous prenez tous ces médicaments-là, vous êtes sûr que c'est nécessaire? Parce qu'à la troisième page, on se dit, tiens, ça va nous faire un mélange explosif, cette affaire. On dit, oh, ben oui, mais j'ai dit à mon médecin que j'en avais pas besoin. J'en ai une qui les met soigneusement dans les toilettes. Je dis, il faut quand même tirer de temps en temps, parce que sinon, ça va bouchonner tellement il y en a. C'est la dérive absolue. Ça n'a plus de bon sens. Et le patient est même éjecté de ce bon sens. Il n'a plus droit à la parole, puisque le médecin sait, lui, il est censé ignorer et avaler vraiment au sens propre et au sens figuré. Il va être, lorsqu'il est hospitalisé, dépossédé de ses horaires, dépossédé de ses repas, dépossédé de son pyjama. La chemise d'opéré est extrêmement sexy, tout le monde le sait, mais c'est une espèce de normalisation. Et j'avais un prof, quand j'étais externe, qui avait dit « Méfiez-vous quand vous avez un gars dans un lit et que vous appelez papy, quand il ressort en costard trois pièces avec la rosette de la Légion d'honneur, vous avez quand même l'air bête. » Eh bien, dans un lit, nous sommes tous des chemises d'opéré, avec une perfusion, la sonde urinaire qui pendouille dehors. Et évidemment, pour l'ego du patient, ce n'est pas top, mais je crois que c'est extrêmement pénalisant pour le patient. Guy Simonet ne me contredira pas. L'ambiance dans laquelle le patient est hospitalisé va déterminer le résultat. Et il y a une très belle étude d'Ulrich, c'est bien ça, 82, 5, je ne sais plus, qui montre que les complications post-opératoires pour la même chirurgie faite par le même chirurgien dans le même hôpital dépendent de ce qu'on voit par la fenêtre. Ceux qui ont un arbre devant leur fenêtre n'ont moins de complications, utilisent moins d'antalgiques, sortent plus vite que ceux qui ont le mur de briques d'en face. Messieurs les directeurs d'hôpitaux, bonjour. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui vont donc participer à cette relation. Quand on rentre dans une chambre sinistre, ben ça va mal, ça va mal. Autre élément curieux de la position du malade, c'est de temps en temps cet alternant, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens parce que c'est très étonnant, entre la science à tout craint, la biologie, Docteur, je viens parce que j'ai un HLA B27. Mais attendez, vous avez mal où, vous d'abord? Votre HLA B27, on s'en fout. C'est quoi votre... Vous avez mal où? Et à côté de ça, la demande de médecine dite douce, voire parallèle. Mon éthiopathe me fait vachement de bien. Je me demande ce que c'est qu'un éthiopathe. Il faudra quand même un jour que j'aille en voir un pour rigoler. Mais il y a une balance très curieuse du patient entre ces... Ce qui veut dire, d'ailleurs, que notre médecine technicienne n'est absolument pas adaptée à la demande du patient, à l'attente du patient. Si on était adapté, à mon avis, l'éthiopathe, il crèverait la faim. Alors, la relation maintenant médecin-malade. Enfin, on va commencer par la maladie, plutôt. La maladie, là-dedans, c'est intéressant de voir la différence, je crois, entre la maladie et sa maladie. La maladie m'attaque de l'extérieur. Je subis, c'est une attaque qui vient de l'extérieur, qui n'est pas moi. Alors que sa maladie, c'est la mienne. J'en fais quelque chose. Ça va être une zone de combat, ça va être une zone aussi de fragilité, bien sûr, parce que la question qui vient derrière ma maladie, est ce que disent de temps en temps les patients, ils disent « je m'en suis fait une maladie ». Et donc il y a une espèce de responsabilité, culpabilité en fait, très vite, qui intervient dans cette question-là. Mais vraiment, je crois que quand les gens parlent de leur maladie, c'est qu'ils y donnent un sens et qu'ils n'auront probablement pas exactement le même taux de réussite ou de complication que les voisins. Cette maladie, elle attaque le goût à vivre. C'est vrai que quand on se lève tous les matins en ayant mal, eh bien, il faut de la niaque pour continuer. Quand on a l'inquiétude, l'incertitude du lendemain, il faut vraiment avoir des réserves importantes pour remonter au créneau et décider de se battre contre la maladie. Mais elle est aussi, de temps en temps, le témoin de la perte du goût à vivre, voire même du dégoût de vivre. Et quand on écoute, là encore, le problème c'est que ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut entendre dans une consultation. Finalement, le plus simple serait que je meure. Et ce n'est pas dit forcément sur un ton strictement dépressif. C'est une réalité qui est parfois vraie. Et cette maladie, elle tombe à pic. Elle va me permettre de retrouver les miens, d'enfin être séparé de là. Elle a quelque chose à me dire. C'est la mienne. Et je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai une patiente qui m'a dit un jour, je sais quel jour j'ai déclenché ma polyarthrite. Bam ! Elle en avait fait quelque chose. Et elle en a guéri. Elle en a guéri, cette fille-là. Elle fait du ski, elle est enceinte, elle a eu un bébé. Il y a quelques années, il lui avait été proposé une arthrodèse occipito-cervicale. Elle n'a jamais été opérée, finalement, hein, je vous promets. Mais ça, c'est important. C'est l'occasion de faire du lien. La maladie, c'est une occasion de faire du lien. De retrouver les miens, de retrouver mon médecin, d'avoir un espace de parole, décidément. Et ça, c'est important. Si j'ai une maladie, je reprends un peu de pouvoir. Est-ce que mes enfants viendront ce week-end si je suis malade? Voilà, ça vous rappelle des questions que d'aucuns vous ont déjà posées. C'est aussi l'occasion d'une relecture. Et ça, ça m'a fait marrer. Mardi dernier, un jeune patient, 35 ans, qui a vraiment des problèmes mécaniques de disque évidents, et puis qui fume 3 paquets. « Mais non, c'est rien, docteur. De toute façon, je suis toujours comme ça. » Enfin bon, là... Et une pression. J'avais plus de trombone sur mon bureau tellement il me les avait débités en machin. Les ongles bouffaient au milieu. Enfin, voilà. Et tout d'un coup, il m'a dit « Et si c'était le moment ?» J'ai trouvé ça extraordinaire. « Et si c'était le moment ?» Et oui, c'est le moment. La maladie, le clou au sol, là, il est coincé. Il ne peut plus bosser, il ne peut plus courir, il ne peut plus rien faire. Donc il est cloué, il est amené à... Voilà, je vais devoir enfin regarder différemment. Donc, il commence sa relecture. Et la conversation a été excessivement violente au début, parce qu'au début, il m'a dit « Et de toute façon, s'il faut que mon disque explose, ça va exploser. » Donc, il m'a mis finalement sous la menace. Il m'a dit « Petit gars, tu vas m'opérer, toi, parce que j'ai décidé, finalement. Et si ça ne t'en suffit pas comme image, je vais t'en ramener d'autres. » C'est-à-dire que j'ai commencé à être très, très mal à l'aise, parce qu'effectivement, il a des images telles qu'il peut bien exploser un disque et se paralyser, et moi, j'aurais l'air d'un imbécile si je ne l'ai pas opéré. Et si je l'opère dans des conditions sous la contrainte, ça ne va pas marcher. Et bon, on a fini par... ça a fini par tomber, la pression. Et là, quand il m'a dit « c'est peut-être le moment où je réfléchisse », je me suis dit « là, c'est bon, moi, je peux l'opérer maintenant. Je m'en fous, il peut réfléchir avant, après la chirurgie, c'est plus mon problème. » Il est parti dans son processus. Et ce temps-là, grâce à la maladie, obligé par la maladie, il va pouvoir le prendre et en bénéficier. Alors, vient maintenant la relation entre la maladie, le malade et le médecin. Et là, s'introduit l'émotion. Je vais sortir de moi-même, je vais sortir de mon rôle, je vais sortir de mon cadre, et je me rends vulnérable. Je vais accepter de perdre ma blouse blanche, ma superbe, mon « moi je sais ». Je vais entendre l'autre avec sa fragilité, mais ma fragilité. Et c'est peut-être ma fragilité qui sera la plus importante là-dedans. Parce que si je me reconnais fragile, je vais entendre avec une toute autre oreille. Je vais éventuellement avoir une oreille bienveillante. Plutôt que de savoir, je vais me mettre à la hauteur. Je reste toujours assis dans mes consultations. Je me lève exceptionnellement. D'abord parce que je suis feignant, mais en plus, ça permet d'avoir un rapport à hauteur plutôt que de pérorer au-dessus du gars qui est là à regarder à terroriser. Et finalement, en faisant ça, je me mets au service du patient. Non plus de la maladie ou contre la maladie, mais je me mets au service de la personne. Et là, j'ouvre un espèce de havre de paix. C'est fondamental dans toutes les relations, mais c'est extraordinairement efficace dans la relation médecin-malade. Si enfin il y a une zone neutre, une zone bienveillante, une zone où on peut se laisser aller, je crois que ça va être l'occasion, effectivement, d'un temps de relecture commun. Commun, ça veut dire que on est ensemble. On accepte d'être ensemble. On va passer un moment ensemble et on va voir ce qu'on va en faire. Quand on entend, quand on dit relation médecin-malade, on entend très souvent la relation descendante du médecin vers le malade et de la compassion que j'ai ou que je suis censé avoir ou que je pourrais avoir pour le patient. Mais il y a quand même dans notre esprit une relation descendante. Et en fait, ce qui est le plus intéressant, au moins du point de vue du soignant, c'est la relation boomerang. C'est qu'est-ce que moi je vais accepter de prendre comme risque d'écoute en entendant vraiment l'autre. Et là, ça change tout. Alors, c'est souvent mieux entendu dans le milieu paramédical. Un cas difficile dans un service, quelque chose qui tourne vraiment vinaigre, il y a un psychologue qui débarque, qui crée un groupe de parole, et on partage. Le corps médical n'est souvent pas invité, soit ce sont au-dessus de ce débat-là. Nous, on est plus costaud que les infirmières, quand même, faudrait voir. Merde. Hein ? Bon, on a fait des études. Et donc, on va y arriver par nous-mêmes. Danger. Danger, à mon avis, il est double. Il est danger vers la fuite. Je me retourne vers la radio et j'entends plus parler le patient. Ou vers l'addiction. Le sport, la puissance, tout ce qu'on veut. Il y en a un qui rigole, fais attention à toi. Donc, l'enjeu de cet effet boomerang, c'est cette acceptation de la fragilité qui va me fragiliser alors que je suis censé être celui qui résiste. Parce qu'il n'est pas question de ne pas résister. Si je dois m'effondrer à chaque fois que j'opère un cas qui est trop triste, ça ne va pas aller non plus. Donc il y a une espèce de pari sur cette fragilité et d'acceptation de mes limites. C'est-à-dire que quand j'ai un patient qui me ressemble trop, j'ai toujours eu énormément de mal à prendre en charge des patients qui avaient l'âge de mes enfants. Ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air. C'est insupportable. Alors, heureusement que je n'ai pas fait de pédiatrie, mais ça m'arrive de temps en temps, je trouve ça trop dur. C'est trop dur. C'est trop dur pour moi. La casquette sur les enfants, je ne supporte pas, parce que pour moi, c'est un gamin qui a une chimio. Et voilà, ça, je sais que c'est ma zone de fragilité. C'est peut-être pas la peine que j'y halte forcément et que j'aille me casser la gueule, parce que je vais me casser la gueule. Ou bien, je vais fuir et je ne regarderai pas les enfants dont je m'occupe. Donc, la pédiatrie, c'est peut-être pas pour moi. Il faut accepter cette faiblesse potentielle. Mais ça requiert une extrême confiance dans notre force. C'est assez bizarre, ce paradoxe. Je peux accepter d'être fragile parce que j'ai confiance dans autre chose. Et cette autre chose, ça ne peut pas être moi seulement, puisque justement, je me sens faible. C'est bien en moi, mais ce n'est pas que moi. Et ça, je crois que ça nous amène à une certaine révision de nos façons d'être. Je ne peux pas être tout le temps sur la brèche. Et je pense là à nos confrères, en particulier cancérologues, qui font un métier terriblement difficile et qui portent, j'en connais un certain nombre, qui portent dans leur corps la trace de leur épuisement mental et psychique. C'est des mecs qui sont au créneau. Et l'année dernière, j'ai eu une patiente très difficile, pénible, qui m'a secoué. Et donc, difficile, quoi. Et puis, cette année, je retombe quasiment le même cas. Et là, j'ai dit aux cancéreux, me laissez pas tout seul. Parce que l'année dernière, j'avais vraiment eu l'impression d'être tout seul, d'être le seul à être au créneau, parce que les complications, elles étaient toujours chez moi. Ça me retombait toujours dessus. Et ils m'ont dit, et tu crois que nous, on n'est pas seuls? Et je me suis dit, ben oui, effectivement, je pense que là, il y a des moments où nous devons non pas nous blinder parce que nous couperions la relation, mais nous renforcer. Et où est-ce qu'on se renforce? On se renforce dans la relation, dans le lien, dans l'acceptation d'une dépendance, dans un retour à la nature pour certains, dans un retour à des notions de l'enfance. Je suis très frappé par... On a souvent eu des intuitions géniales dans l'enfance, puis on est passé à côté de notre vie, et on s'est laissé embarquer, on a suivi, et on a oublié les choses importantes qui nous tiennent. Là, il y a des racines. Là, il y a une... pas une sécurité, dans le sens où ce serait sûr, mais il y a une certaine foi, une espérance dans quelque chose de plus profond, une certaine confiance, parfois béate. Et alors, si on s'autorisait à être confiant, est-ce qu'on ne serait pas plus sûr en étant fragile? C'est ce mélange qui est intéressant, d'une fragilité acceptée, qui n'est pas maîtrisable, bien sûr, mais qui est soutenue en acceptant de se laisser soutenir. Alors, je vais quand même revenir à Balint, parce qu'il y a ces groupes Balint. Ces groupes Balint dont parlait M. Caillé, et qui sont des lieux pour le corps médical, où on peut être en vrai... C'est le seul lieu professionnel où on puisse être en totale vérité. Et on expose son cas. On expose son cas, c'est extraordinaire, parce que ça démarre en général d'un détail qui n'a strictement aucun intérêt. C'est fabuleux. Je ne sais pas si certains parmi vous ont eu la chance d'y participer, mais c'est extraordinaire. Moi, c'est de 9h à 11h le soir de ma journée de bloc. Donc franchement, j'y vais épuisé. À chaque fois, je me dis, j'y vais pas, puis j'y vais, et je reviens. Waouh ! On est parti d'un sous-détail d'une consultation pour en arriver à toute notre façon de nous comporter dans notre relation médecin-malade. Renvoyer à nos enfances, renvoyer à tel décès, renvoyer à tel échec, renvoyer, on est renvoyé à nous-mêmes, et par la puissance du groupe, par la puissance de la relation, on se découvre et totalement fragile, parce qu'on ressort avec nos mêmes fragilités. Ce n'est pas un endroit où vous ressortez avec un ego qui ne passe plus dans les portes. Non, non, même fragilité. Mais même sensation d'humanité commune, d'une fragilité partagée et donc, finalement, très bien soutenue les uns par les autres. Même si on n'a pas de solution, on ne va pas résoudre le problème d'enfance de tel ou tel, bien sûr que non, mais on va être... Voilà, on sait que les autres ont fait le même choix de la relation, rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes désirs de soutien de leurs patients, mais qu'ils ont la même fragilité partagée. Et plutôt que de se replier frileusement sur nous-mêmes, je crois qu'il y a vraiment une invitation à ouvrir les bras, à tout ça, à accueillir le patient. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière », Michel Audiard. Je l'ai affiché dans mon bureau, et je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui sont assis en se disant « Vous voulez dire quoi par fêlé ?» Eh bien, moi, j'aime bien les fêlés. Je crois qu'effectivement, seuls les fêlés peuvent accueillir la lumière et peuvent la laisser sortir. Et qu'il n'y a qu'en acceptant nos fêlures que l'on va pouvoir réellement établir une relation médecin-malade autour de cette maladie qui nous relie, qui sera positive pour le patient et positive pour nous. C'est un peu une espérance. L'espérance, c'est un choix. Il y a un moment où il faut choisir d'espérer, choisir la vie. Mais il n'y a pas de place pour les tièdes dans cette affaire. C'est vrai que les un peu, choisir un peu de vie puis un peu de mort, ça ne va pas aller très loin. Mais en choisissant cette espérance-là, je vous promets qu'on découvre des trésors chez l'autre et des trésors chez soi qui méritent d'être partagés. Je vous remercie. Si j'avais la solution. Alors, il y a quelques remarques. D'abord, sur le terme « assujetti », je serais plus tenté, en particulier sur ce qui est dans l'enseignement, par une relation de liberté, quand même, entre l'enseigné et l'enseignant. Et autant que faire se peut, avec bien sûr les limites de cette affaire-là, une relation quand même de liberté entre le patient et le médecin. Alors, liberté, c'est exagéré, mais disons qu'il y a un certain... Le médecin doit accepter la critique, alors que dans l'assujettissement, je n'entends pas la possibilité de la critique. C'est pour ça que c'est un terme qui me gêne un peu, de même que le maître doit accepter la critique. Je crois que ce qui fait beaucoup la différence, par exemple, entre la médecine publique et la médecine privée, c'est que nos externes ou nos internes nous disent « Mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ?» Et qu'on ne peut pas tellement facilement répondre « Parce que je l'ai toujours fait. » Donc on est obligé d'être remis en question. Et si l'élève ne peut pas poser la question du « Pourquoi ?», à mon avis, là, il y a assujettissement et ce n'est plus un enseignement très positif. De même pour le patient, quand on va pouvoir expliquer la démarche, et le faire participer à sa démarche thérapeutique, on lui donne un certain accès à ce niveau de liberté et d'humanité relative commune, plutôt que de « voilà ce que je dois faire et vous, la ferme ». Voyez, là, on serait dans l'assujettissement, dans la participation, dans l'explication, dans « et vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Parce que finalement, la question qui revient assez souvent, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Ça aussi, c'est bizarrement dans les citations, mais c'est important de l'avoir en tête. « Vous venez pourquoi ?»« Je viens pour plus avoir de douleur. » Ça, ce n'est pas mon guichet. Je ne sais pas faire. Je sais faire de la technique, faire autre chose, mais plus de douleur. Je ne vais pas chez le coiffeur pour plus avoir de cheveux blancs, c'est clair. Sinon, je vais être rasé. Bon, donc, voilà.
Il y a un vendeur et un client.
Alors, il y a un vendeur et un client. Enfin, il y a un demandeur.
Dans la pièce de Coltès, hein,
mais il y a un demandeur et un qui peut délivrer quelque chose. Je reviens sur cette histoire de qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous. J'ai en mémoire un patient qui ressemblait à Einstein, c'était impressionnant, qui avait une métastase de cancer du poumon, 70 ans. Je lui fais d'abord une chirurgie par voie postérieure qui améliore ses douleurs, qui lui évite de se paralyser. Il reprend un peu d'activité, puis la maladie continue et il recommence à se paralyser. Et là, techniquement, ça devenait quand même très chaud pour moi. Donc j'avais encore des propositions techniques à faire. Et je lui dis, bon, ben voilà, moi, je peux, mais c'est bon. Et il me dit, vous m'opérerez quand vous m'aurez expliqué ce qu'il y a après la mort pour vous. Ça m'a pris plus de temps que de l'opérer. Et puis, à la fin, il m'a dit, bon, ben, vous ne m'opérez pas, mais vous allez téléphoner à mon fils. J'ai téléphoné à son fils, sans qu'il m'en dise plus. J'ai téléphoné à son fils, il m'a dit, ben voilà, votre père, pam pam, j'ai finalement, avec lui, on a décidé que... Et j'ai reçu un jour, un dimanche matin, à la maison, un coup de téléphone de ce fils me disant, merci pour ce que vous avez fait pour mon père, car parce que vous ne l'avez pas opéré, on a pu se revoir. Je crois que dans ce cas-là, j'avais probablement trouvé la distance qui allait bien. Ensuite, séparer technicité et humanité, c'est vrai que c'est très, très, très difficile d'avoir les deux. Et qu'en principe, quand j'opère quelqu'un, si je pense qu'il y a un volet humain sévère, qui a vraiment besoin d'une thérapie, je le réfère à un psychiatre, ce qu'on veut, mais je me défausse de la partie trop humaine. Ça ne m'empêchera pas d'être pas très loin, mais je m'interdis d'aller trop loin parce que s'il y a souci, est-ce que c'est un souci technique, est-ce que c'est dans la tête, je ne sais plus. Et puis, si je suis à peu près sûr de ne pas opérer les patients, eh bien, j'accepte et on choisit de se voir une heure par mois. Et puis, on avance. Et de façon assez bizarre, à la 3/4e fois, on ne parle plus du tout de douleur. Ils sont venus pour être opérés parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus que ça pour être soulagés. Et au bout de 3-4 fois, on discute de plein de choses, parfois très douloureuses, mais pas de douleur. Et il est évident qu'il y a des acheteurs qui sont très déçus de ce que j'ai à leur vendre et qui m'envoient péter plein pot. Hein, plein pot. De temps en temps, ça sort, ça claque, ça gueule dans la salle d'attente, ça y va. En même temps, je me dis, j'ai en gros 10 minutes pour ferrer. Il faut qu'en 10 minutes, le patient ait entendu autre chose que ce qu'il attendait. Alors, ça doit faire 10 ans que je travaille cette approche-là et j'espère avoir un peu progressé dans l'approche. Mon directeur me dira combien il a reçu de lettres de plainte cette année, mais c'est moins mal. Je me suis un peu arrondi les angles. Mais je crois que c'est quand même notre rôle, à un moment ou un autre, surtout dans un hôpital universitaire, dans un centre où les gens, ils ont déjà fait 2-3 consultations, ils arrivent avec la poche d'IRM normale et tout, de dire « stop, c'est bon, on arrête les conneries, on passe à autre chose ». Alors, dans la manière de l'annoncer, évidemment, il y a du travail, il y a du peaufinage à faire, mais je crois que c'est quand même dans notre rôle de dire « on ne peut pas prendre tout en charge éternellement et aller d'arrêt de travail en machin ». On déconne. Il y a un moment où il faut dire on déconne. Et curieusement, les patients disent assez régulièrement, mais ça, en fait, on me l'a déjà dit. Ah bon ? Alors, si je suis moins fou qu'il n'y paraît, puisque finalement, on vous l'a déjà dit, c'est donc qu'on est au moins deux fous. Et à force, il faut peut-être se poser la question de savoir qui. Et ça, c'est, je crois que les patients, pour étonner qu'ils soient, sont intéressés d'une écoute différente. Le problème, c'est d'être sûr qu'ils ont bien compris qu'on avait entendu leur plainte fonctionnelle. Je sais que vous avez mal là où vous me le dites. Et s'il y a un doute, un moment dans la discussion, je retourne en arrière et je vais refaire une IRM et ou des potentiels évoqués ou machin, un truc. Et on se reverra à l'examen avec l'examen normal qui nous permettra peut-être de dire qu'on peut parler d'autre chose. Donc certainement, une approche frontale, très chirurgicale de la psychologie m'a été assez régulièrement reprochée. Je reste chirurgien et donc j'ai quand même mes tendances. Mais en même temps, les patients sont étonnés, parfois scandalisés, et à la fin de l'entretien, intéressés par ce qui s'est dit. Ça a ouvert une porte autre. Comme de toute façon, tout le monde leur a dit que ce n'était pas technique, le mec qui leur dit « bon, ben alors, faut peut-être passer à autre chose, puisque tout le monde a dit que ce n'était pas technique, et si on allait voir ailleurs ?» Ah bon ? Mais il attend quelque chose, mais il attend quelque chose qui n'est pas dans nos capacités, qui n'est hors d'atteinte. Il faut un moment lui dire « ça n'est pas possible ». Et de temps en temps, moi, j'aime beaucoup leur dire, alors c'est peut-être un peu foucu de ma part, mais je l'utilise assez souvent en disant « moi tout seul, je ne peux rien ». Ah, je peux enlever la hernie, je peux fixer la vertèbre, ça ne servira à rien. Mais si on se met d'accord et qu'on va dans le même sens et qu'on y va ensemble, alors à ce moment-là, à nous deux, on peut tout. Ils sont étonnés et le fait de participer au traitement, moi, j'y vais et je ne vous opère pas des boyaux de la tête, je vous opère de vos vertèbres, j'y vais. Mais j'y vais pas seul, parce que si j'y vais seul, on se plante. Ça, c'est une stratégie qui est très, très efficace, parce que l'autre aspect du problème que nos amis techniciens ou technico-commerciaux, tiens, pour être un peu vache, utilisent, c'est de dire, bah, la chirurgie ne peut rien, allez donc voir un médecin, un rhumato, ce que vous voulez, mais dégagez de là, vous cassez mes statistiques. Moi, j'ai quand même été élevé dans une école. Mon bon maître était quand même assez vif. Et quand il n'avait pas envie d'opérer quelqu'un, il disait, vous êtes comme une moule sur le rocher, dégagez. Et en guise de prise en charge, pas top. Mais il avait raison, dans le sens où opérer, c'était pire. Docteur, j'ai mal à mes vis. Docteur, j'ai mal là. J'ai mal... D'ailleurs, l'expression phare, c'est... « Docteur, j'ai mal depuis que vous m'avez opéré. » Alors ça, moi, ça me fait bondir. J'ai dit, allez, qu'on se mette d'accord. C'est quand même vous qui êtes venu me voir et j'ai bien dû vous opérer parce que vous aviez mal. « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais... » Oui, mais c'est-à-dire que j'ai mal malgré la... Ah, c'est pas la même chose. Et je crois qu'il y a un moment où, à vouloir trop en faire, à vouloir trop prendre en charge, on achève, on organicise la maladie. Maintenant, j'ai mal là où vous m'avez opéré. Et puis, c'est imparable, parce que de toute façon, l'IRM est devenu anormal, la scintille va fixer, on aura toujours quelque chose de pathologique. Et donc, cette prise en charge, c'est une prise en charge commune, avec le patient, mais pas seul. Parce que là, moi, je ne sais pas faire. Ben oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ma douleur va me sortir une épine du pied. C'est ça le problème. C'est que j'en ai un là qui commence à me fatiguer beaucoup, que j'ai opéré il y a 9 mois. Je sais que je ne le sortirai jamais de sa douleur. Alors, tant qu'il n'aura pas entendu l'aspect psycho du psychosomatique. Mais ce qui est marrant, c'est que dans l'esprit des malades, comme ou des pas malades, mais des souffrants, comme des médecins, quand on dit psychosomatique, on dit c'est les boyaux de la tête. Mais non, c'est le corps qui parle des boyaux de la tête. Mais c'est le corps qui parle. La douleur, elle est là. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus tout à l'heure. Si, d'un moment de la discussion, le patient doute, on parlait de confiance, doute de ce que j'entends et pense que je n'ai pas entendu qu'il avait mal, rideau. Il faut que je fasse une marche arrière pour revenir à ce basique de « je sais que votre corps supporte, vit, ressent ce que vous me dites ». C'est fondamental. Sans support somatique, sans entente somatique, la discussion est plombée et c'est terminé. Ça s'arrête immédiatement. Là, je prends la chaise immédiatement dans la tronche. Hein. Et ça m'est déjà arrivé un coup. Donc maintenant, je fais gaffe.
J'irai même un peu plus loin. Je dirais qu'il y a certains patients qui ont trouvé un sens de leur vie à travers leur maladie.
Oui, oui. J'existe par la douleur. Bien sûr. Et pas que de la douleur, même de la maladie violente. Hein. L'échelle analogique, c'est génial, parce qu'un jour, j'ai eu un patient qui s'est mis, il avait une sciatique, il a mis la règle sur la fesse, comme le thermomètre, puis ça n'a pas bougé, docteur. J'ai arrêté ce jour-là d'utiliser ce bel engin. Il y a un de nos maîtres célèbres de chirurgie pulmonaire qui a arrêté en disant « je ne peux plus, je ne peux pas ». Et avec une dignité monsieur, quoi, avec tout ce que veut dire monsieur en médecine. J'ai vu plus de gens se blinder et fuir dans l'addiction. Oui. J'ai vu des gens quand même au moins se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans ce bonhomme. Et je vois par exemple, ça c'est un peu sur, parmi mes collègues sur Bordeaux ou dans la région que je regarde un peu différemment. Et bien souvent, ils m'envoient des patients, soit qu'ils hésitent à opérer en disant « tu pourrais nous dire ce qui se passe », ou qu'ils ont opéré et qui, devant un échec fonctionnel sans problème technique, se disent « on passe le ballon ». Et donc l'idée qu'il y a autre chose, elle fait son chemin quand même. Je suis pas... j'ai fait des exposés de psychosomatique devant des parterres chirurgicaux. Au début, il y a un certain amusement. Ils disent « ça y est, Poitiers a bu un coup, il s'est lâché ». Au bout d'un moment, ils se disent « ben merde alors, ça a l'air d'être pas si fou que ça, son truc ». J'ai des expériences de Guy Simonet que je présente et où ils se disent « on arrive au récepteur... au récepteur... sodique du canal, enfin machin, vous voyez, du truc. Alors là, ils se disent, merde, c'est donc vrai, quoi. Et ça se termine par une remise en cause totale et une relecture de nos vies, à eux comme à moi, comme à celle du patient. Et là, quand même, ça secoue. Je crois qu'il y a une entente. Les événements de vie, c'est vrai que. Si je regarde le nombre de mes collègues, je pense plus qu'ils ont tendance à se blinder qu'à se fêler un peu plus.